Radio Okapi. Le journal Blaise Chindeli Kambala.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée dont voici les titres. Les rideaux sont tombés à la 9e commission permanente mixte RDC-Ouganda. Les deux pays ont signé hier à Kampala 6 mémorandums d'entente et de coopération dans plusieurs domaines. Cette signature est intervenue en présence du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et de son homologue ougandais Yoweri Museveni. Nous irons ensuite à Kananga pour parler de pluies diluviennes de ces derniers jours qui ont provoqué d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Plusieurs maisons se sont effondrées et certaines infrastructures ont été endommagées. La RDC et l'Ouganda ont scellé lundi à Kampala plusieurs mémorandums d'entente dans un contexte marqué par de forts enjeux sécuritaires et économiques pour l'Est de la RDC. L'invité de ce journal, le gouverneur du Nord Kivu, le général Évariste Kakule-Somon, revient sur la portée de ces accords pour sa province et annonce la reprise de plusieurs projets de développement suspendus. Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue à cette édition du journal parlé sur la radio de la paix. La RDC et l'Ouganda ont signé hier à Kampala 6 mémorandums d'entente et de coopération dans plusieurs domaines, notamment l'économie, les échanges commerciaux, les infrastructures, l'énergie ainsi que la gestion des frontières. La signature est intervenue en présence du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de son homologue ougandais Yoweri Museveni à la clôture de la 9e commission permanente mixte entre les deux pays tenue pendant 3 jours à Kampala. Les deux chefs d'État ont également abordé plusieurs questions stratégiques liées à la sécurité et au développement. Les détails avec Martial Papimukeba.
Le président congolais Félix Tshisekedi a indiqué que la sécurité à Beni et à Ituri, où opèrent conjointement les FARDC et l'UPDF, a été au centre des discussions.
Le contenu des discussions que nous avons eues aujourd'hui nous ont permis de faire l'évaluation de la collaboration entre nos deux armées, parce que vous savez très bien que nous attachons une importance particulière à la sécurité et à la stabilité dans toute la région des Grands Lacs. Et ici, particulièrement dans la région dans laquelle travaillent conjointement nos forces de défense et de sécurité.
De son côté, le président ougandais Yoweri Museveni a évoqué une exploitation pétrolière conjointe entre les deux pays.
Nous avons parlé du pétrole. Certains gisements pétroliers s'étendent à la fois sur l'Ouganda et la RDC, la frontière traversant les réserves. La RDC a exprimé, et j'ai accepté, son intérêt à utiliser les infrastructures pétrolières de l'Ouganda, notamment le pipeline et les projets de raffinerie, afin de développer ses ressources pétrolières.
La RDC et l'Ouganda renforcent ainsi leur coopération bilatérale.
Et puis la sécurité transfrontalière est au cœur de l'accord de coopération signé ce lundi à Bangui entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Les deux États, représentés par leurs ministres de défense, ont paraphé ces documents en présence de leurs délégations respectives. Cet accord vise notamment la neutralisation des groupes armés qui écument la frontière commune, en particulier les rebelles de la LRA et certains éleveurs armés Mbororo. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Au terme de 48 heures de travaux intensifs, marqués par des échanges approfondis entre les experts des deux pays, les conclusions ont été entérinées par la signature du document final par les ministres de la Défense. L'accord a été signé par Guy Kabombo Modianvita côté congolais et par son homologue centrafricain Rameau-Claude Biro. Il vise à assainir les zones frontalières longtemps affectées par l'activisme des groupes armés opérant de part et d'autre de la frontière commune. À travers cet accord, la RDC et la RCA conviennent notamment de mettre en place un centre de coordination conjoint destiné à permettre un échange d'informations en temps réel sur les mouvements de la LRA et d'autres groupes armés ou d'autodéfense. Le ministre congolais de la Défense a souligné l'importance de cet accord qui, selon lui, dépasse les simples cadres juridiques et traduit une vision commune de Kinshasa et de Bangui pour faire face aux menaces sécuritaires partagées. Au-delà des aspects techniques, cette coopération témoigne par ailleurs la volonté politique de décapitaliser, de consolider un partenariat sécuritaire durable fondé sur la confiance mutuelle, le bon voisinage et la solidarité africaine.
Pendant ces temps en Nairobi, le sommet Africa Forward entre ce mardi dans une deuxième journée plus politique. Après une première journée consacrée à l'économie et au forum d'affaires, 32 chefs d'État et de gouvernement sont attendus ce mardi dans la capitale kényane. Selon l'Élysée, 28 chefs d'État devraient être présents. Trois grands absents toutefois, les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger, membres de l'ASS qui ont rompu leurs relations avec Paris. Malgré cela, les pays d'Afrique de l'Ouest restent représentés, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Togo. Hier, le président français Emmanuel Macron a annoncé 23 milliards d'euros d'investissement pour l'Afrique, dont 14 milliards d'investissements strictement français, privés et publics, en clôturant le forum des affaires du sommet franco-africain Africa Forward à Nairobi. Plus de détails avec vous, Alain Hurung.
Parmi les principaux secteurs bénéficiaires de ces investissements français figurent la transition énergétique, 4,3 milliards, le numérique et l'intelligence artificielle, 3,76 milliards, l'économie bleue, 3,33 milliards et l'agriculture, 1 milliard selon l'Élysée. En outre, 942 millions d'euros d'investissements sont destinés au secteur de la santé, 300 millions à celui de l'industrialisation et 250 millions au secteur bancaire et financier. Pour ce mardi 12 mai, dernier jour du sommet, au programme une rencontre entre responsables politiques et une trentaine de PDG africains et français pour discuter industrialisation et transition énergétique. Le secteur privé très sollicité réclame davantage de stabilité et des règles fiscales plus prévisibles. Les entreprises présentes comme Orange, Equity Bank ou Total Energy pèsent plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le continent. Autre enjeu majeur, la réforme de l'architecture financière internationale porté par les présidents français et kényans pour un système plus équitable et adapté aux besoins des pays du Sud. Les discussions aborderont aussi les questions de paix et de sécurité en Afrique.
Je le disais en titre à Kananga, les pluies diluviennes de ces derniers jours ont provoqué d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Plusieurs maisons se sont effondrées et certaines infrastructures ont été endommagées. Ces intempéries ont également aggravé les têtes d'érosion dans plusieurs quartiers de la ville. Le point avec André Katende Ngalamulome.
Au quartier industriel derrière le marché Nsélé, une maison construite au bord d'une érosion s'est écroulée lors de la pluie tombée dans la nuit de lundi à mardi. Le drame a coûté la vie à une femme et à sa fille âgée d'environ 16 ans. À Malandi, la forte pluie de samedi à dimanche a provoqué un éboulement de terre. Celui-ci a entraîné l'effondrement du mur d'une maison, causant la mort d'une adolescente de 13 ans. Les experts en environnement estiment que la construction anarchique est l'une des principales causes de ces drames. Pendant ce temps, l'école primaire Chikanana de l'église unie du Saint-Esprit, située au quartier Kelekele dans la commune de Katoka, s'est également effondrée, perturbant les déroulements des cours. Jean-Pierre Kayembe, secrétaire provincial de cette église, appelle l'État à une assistance urgente. Ces pluies ont aussi endommagé la route Ilibo dans la commune de Lukonga, compliquant la circulation. Elles ont enfin provoqué l'apparition de nouvelles têtes d'érosion et aggravé celles déjà existantes. Plusieurs maisons ont été détruites dans différents quartiers, laissant de nombreuses familles sans abri. Kananga, André Katendengala Mouloumé, Radio Okapi.
Situation similaire en Ituri, plusieurs dégâts matériels sont enregistrés depuis la semaine dernière à la suite de fortes pluies qui s'abattent sur la région. Selon la coordination provinciale de la protection civile, un élève du primaire est mort noyé à Jupunvor, tandis que la toiture d'une école à Briton, un centre de passation des épreuves hors session de l'examen d'État, a été emportée à Boga. La structure signale également l'effondrement d'un pont reliant la RDC à l'Ouganda dans les territoires des Mahagi après les débordements des eaux d'une rivière. Conséquence, le trafic entre les deux entités est suspendu. Isaac Remoyo peut nous en dire plus.
La coordination de la protection civile rapporte que des enfants, dont l'un âgé de 3 ans, traversaient une rivière dans les villages de Djupunvor, en territoire des Mahagi, pour se rendre à l'école, lorsqu'ils ont été emportés par les eaux en crue. L'un des enfants est mort noyé, tandis que l'autre a été sauvé de justesse et admis dans une structure sanitaire. À Boga, dans le sud du territoire d'Iromo, les toitures d'un bâtiment qui abritait un centre de passation des épreuves hors session de l'examen d'État ont été emportées vendredi dernier par un vent violent accompagné de fortes forte pluie. Aucun mort ni blessé n'a été signalé, mais les examens ont été perturbés, obligeant les finalistes à être délocalisés vers d'autres salles. À Kasséni, les eaux ont envahi la plaine du lac Albert, bloquant pendant près de 24 heures l'accès au centre hospitalier de la localité, ainsi que la circulation des dizaines de véhicules transportant des marchandises en provenance de l'Ouganda. Les services de la protection civile signalent également l'effondrement du pont jeté sur la rivière Achodo, reliant les centres commerciaux de Djigo à la ville ougandaise de Parombo, où de nombreux commerçants s'approvisionnent en produits de première nécessité. Le trafic transfrontalier est actuellement suspendu pour les véhicules. Les opérateurs économiques plaident pour une intervention urgente des autorités. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans le même registre, province du Maniema, le mouvement international des droits de l'enfant, de la femme et de l'homme pour leur promotion sociale, MIDEFEOPS, a procédé ce mardi 12 mai à la distribution des kits médicaux dans plusieurs structures sanitaires de Kindu. Les centres de santé de Basoko, Lumbulumbu et Sokolo, situés sur la rive droite dans la commune d'Alunguli, ont notamment bénéficié de cette dotation. Cette distribution s'inscrit dans le cadre du projet de réponse aux crises liées aux inondations fluviales dans la ville de Kindu, couvrant les communes de Mikelenge, Alunguli et Kasoku. Le projet est financé par Star Ready, Star Network et exécuté par MIDEFEOPS. Florence Kizalunga, reportage.
Le lancement officiel a eu lieu au centre de santé de Basoko en présence du ministre provincial de la Santé. L'élan d'un poids de plus de 2 tonnes comprend notamment des médicaments antipalidoïens. Igue Katembo, superviseur du projet, souligne l'importance de cette dotation.
C'est un appui de prise en charge médicale qui prend des pathologies comme malaria, typhoïde, des maladies hydriques, mais aussi la prise en charge des survivants des violences basées sur les genres.
Les bénéficiaires, à l'image de Jacqueline Ndoromo, responsable du centre de Basoko, salue une aide arrivée au moment opportun.
Ces médicaments ici arrivent au bon moment, là où on avait soif et besoin pour traiter les malades. Et au nom de toutes les structures, nous disons sincèrement merci.
De son côté, le ministre provincial de la Santé, Dr Alexis Choma, a rappelé que ces médicaments sont destinés en priorité aux riverains.
Vous savez que nous vivons l'inondation et que beaucoup de familles sont victimes. Alors, ces médicaments vont soulager, tant soit peu. On ne va pas donner ces médicaments pour servir les non-riverains. Ces médicaments vont servir la population riveraine.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
À Kinshasa, dans plusieurs quartiers de la commune d'Enjili, l'eau de la régie des eaux ne coule plus dans les robinets depuis près de 2 semaines. Privés de cette ressource essentielle, de nombreux ménages sont contraints de parcourir de longues distances pour s'approvisionner en eau, avec toutes les difficultés que cela implique au quotidien. Une situation qui complique la vie des habitants. Reportage signé Joyce Mansaka.
La pénurie d'eau touche plusieurs quartiers de la commune d'Enjili, notamment les quartiers 3, 4, 11 et 12. Depuis plusieurs jours, les habitants vivent au rythme de robinets secs, une situation qui perturbe fortement leur activité quotidienne. Dans les avenues concernées, le constat est le même. Bidons à la main, hommes, femmes et enfants parcourent de longues distances à la recherche d'un point d'eau. D'autres se tournent vers le revendeur où les prix du bidon a sensiblement augmenté, rendant l'accès encore plus difficile pour le ménage le plus vulnérable.
Nous faisons beaucoup sans eau et on ne peut rien faire à la maison. Nous marchons loin pour trouver seulement quelques bidons.
Cette situation affecte également les activités domestiques et scolaires. Certaines familles reconnaissent avoir des difficultés à cuisiner, à faire la lessive ou encore à préparer les enfants pour l'école à temps.
On passe du temps à chercher de l'eau. C'est ce qui veut dire la distance à parcourir et le temps nécessaire pour puiser de l'eau. Nos matinées sont une véritable course contre la montre, ce qui empêche malheureusement les enfants d'être à l'air en classe.
Selon les agents de la régie des eaux, cette pénurie est liée à des travaux de réparation des conduites endommagées. En attendant, les habitants d'Enjili appellent les autorités à accélérer les travaux afin de mettre fin à cette pénurie qui complique fortement leur quotidien.
Province du Haut-Katanga, les services de sécurité ont présenté 19 présumés bandits au gouverneur intérimaire. Parmi eux, un ressortissant chinois et des militaires. Ils ont récupéré des armes à feu, des munitions, des effets militaires ainsi que 2 véhicules volés. D'après les services de sécurité, ces présumés bandits à main armée opéraient entre les provinces du Haut-Katanga, du Lualaba et du Tanganyika. De précision avec Paulin Monanga.
Ces présumés bandits sont répartis en différents groupes. À en croire les services de sécurité, il y a des casseurs de vitres, des spécialistes en extorsion, vol à main armée et recel des véhicules. Notons parmi ces personnes les militaires déserteurs du nom de Ngangala Bin Sessa alias Kaloko, accusé de vol à main armée. D'après les services de sécurité, cet homme à la gâchette facile est un récidiviste. Signalons aussi la présence d'un autre militaire impliqué dans les vols de cathodes qu'il met sous forme de panneaux publicitaires pour tromper la vigilance des services de sécurité. Quant au sujet chinois, il est accusé de contrefaçon de dollars américains et de cambriolage de casinos. Il avait en sa possession deux armes à feu et plusieurs billets de dollars américains. Signalons que les services de sécurité ont saisi quatre autres armes à feu, des munitions, des tenues militaires, des feuilles de cathode et deux véhicules volés. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembechula, annonce que ces présumés criminels seront mis à la disposition de la justice. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Tout juste nommé à la tête de l'Agence française de développement AFD, Christophe Lecourtier participait au sommet Africa Forward à Nairobi, consacré au partenariat économique entre la France et les pays africains, dans un contexte de restrictions budgétaires et de remise en question de l'aide publique au développement. Il défend une nouvelle approche fondée sur les intérêts mutuels, l'impact concret et la pédagogie de son action.
L'invité.
La RDC et l'Ouganda ont scellé lundi à Kampala plusieurs mémorandums d'entente dans un contexte marqué par de forts enjeux sécuritaires et économiques pour l'Est de la RDC. Au cœur de ces échanges, le Nord Kivu, province stratégique frontalière de l'Ouganda, est toujours confronté à d'importants défis d'insécurité et de développement. Notre invité, le gouverneur du Nord Kivu, le général Évariste Kakule-Somon, revient sur la portée de ces accords pour sa province et annonce la reprise de plusieurs projets de développement suspendus. Il s'entretient avec Martial Papimukeba.
Général Évariste Kakule-Somon, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes sur place à Kampala et membre de la délégation congolaise. Quelle importance accordez-vous au mémorandum signé entre la RDC et l'Ouganda pour le Nord Kivu?
Ces accords ouvrent des opportunités dans les domaines du commerce, notamment des infrastructures, de l'énergie, du développement économique et surtout de la sécurité. Nous saluons la diplomatie et la vision du chef de l'État qui multiplie les initiatives pour amener durablement la paix dans l'Est de notre pays. Comme vous le savez, la paix et le développement sont étroitement liés. Sans sécurité durable, il est impossible, difficile d'attirer les investisseurs, de créer des emplois et d'améliorer les conditions de vie des populations. Ces engagements traduisent donc une volonté commune de faire de notre frontière un espace d'échange économique, de stabilité, d'intégration régionale, plutôt qu'une zone de guerre, de conflits, une zone d'insécurité.
Certains observateurs estiment que la priorité devrait rester la sécurité dans l'est de la RDC. En quoi ces engagements peuvent-ils contribuer à la paix?
La paix durable passe également par le développement économique, l'intégration régionale et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Lorsqu'il y a davantage d'activités économiques, plus d'opportunités pour les jeunes et une meilleure collaboration entre les États, les groupes armés perdent progressivement leur capacité de nuisance. Ces mémorandums traduisent donc une vision globale, celle de sécuriser, développer et stabiliser durablement toute la région.
Qu'est-ce que la population du Nord Kivu peut attendre comme retombée après cette rencontre de Kampala?
Ces accords ne sont pas des simples déclarations politiques. C'est plutôt une base de travail destinée à améliorer concrètement les conditions de vie dans notre province et dans toute la région des Grands Lacs. Le Nord Kivu a besoin des routes, d'énergie, d'investissements, d'échanges commerciaux sécurisés et surtout des paix. Le mémorandum signé aujourd'hui renforce cette dynamique de coopération régionale indispensable pour atteindre ces objectifs. Notre responsabilité maintenant est de transformer ces engagements en actions visibles et concrètes au bénéfice des populations. La région des Grands Lacs n'a pas besoin de guerre. Nous n'avons jamais provoqué personne, nous n'avons jamais attaqué quiconque, nous avons accueilli tout le monde chez nous. C'est aujourd'hui nos populations qui sont en train de souffrir, on doit y mettre fin, tout simplement.
Dernière question, il y a quelques jours, vous avez annoncé la suspension provisoire de plusieurs projets de développement au Nord Kivu, notamment la construction de l'aéroport de Beni ainsi que plusieurs routes et ponts dans les régions de Beni, Butembo et Lubero. Certaines voix se sont élevées pour demander la poursuite de ces travaux. Quelle est votre réaction?
Je dois d'abord préciser que le lancement de ces travaux de développement au Nord Kivu que nous avons initié répondait à une demande de la population. En partenariat avec les opérateurs économiques, à travers un mécanisme de contribution volontaire dite conventionnelle. C'est notamment la Fédération des entreprises du Congo, l'Association des exportateurs du café et du cacao, les importateurs des produits pétroliers et bien d'autres. La décision de suspendre provisoirement cette mesure était motivée par un souci de comprendre pourquoi et comment autant de turbulences viennent se mêler dans cette action pourtant patriotique de résilience et qui est en train de faire son bon bout de chemin. Un souci de transparence aussi dans la gouvernance et la gestion de ces projets. Nous avons écouté les préoccupations exprimées par la société civile, les associations des jeunes, les associations des femmes et tout le monde. Nous avons écouté plusieurs couches de la population tiennent à ce que ces efforts continuent. Nous n'avons jamais dit que nous n'allons plus continuer à faire développer au Nord Kivu. Nous allons poursuivre ces travaux avec ardeur. Nous avons eu l'engagement du gouvernement central qui va nous accompagner. La taxe conventionnelle n'est pas éternelle. Nous allons réunifier le Nord Kivu et il va continuer à se développer grâce à ses énormes ressources avec l'appui du gouvernement central. Les démarches sont transversales et multisectorielles, vous le savez. Nous frappons à toutes les portes, même dans le cadre de la coopération décentralisée. Le Nord Kivu va se développer. Ces projets s'inscrivent et restent pleinement dans la vision du chef de l'État en matière de développement du Nord Kivu. Je profite donc de votre micro pour annoncer que nous allons réunir tout le monde autour de la même table pour que nous puissions nous parler en face, discuter en frères et continuer ce que nous savons bien faire, développer notre province. Le développement ne doit pas être saboté. Il doit plutôt être une cause commune au service de la population.
Général Évariste Kakule-Somo, merci.
C'était donc notre invité, le gouverneur du Nord Kivu, le général Évariste Kakule-Somo, qui s'entretenait avec Martial Papi Mukeba. Voilà qui met fin à ce journal parlé de la mi-journée, coordonné par Élisée Chikota Chivoeta, supervisé par Alain Irongo-Mochinge et mis en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à suivre sur notre page TikTok et à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.